Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. Ok. Donc, je suis désolé, mais j'ai voulu faire une liste aussi courte que possible pour ne pas appeler les gens qui ne répondent jamais. Donc, j'en ai oublié, évidemment. Donc, voilà, les matériaux sont là. On a dit ce qu'on voulait dire sur les Atsechitim, ont joué un rôle fondamental. Et toute la structure du Mishkan qui est faite avec ces bois-là. Donc alors, il faut savoir que si on considère que la construction du Mishkan, elle vient réparer la faute du Vaudor, comme la faute du Vaudor, c'est la répétition de la faute d'Adam Arishon, que Abraham, c'est celui qui a réparer la faute d'Adam Arishon. Il devait y avoir encore des compléments, etc. Ça s'est arrangé complètement au moment de Matan Torah, mais ensuite, comme on a refait le veau d'or, on a refait la même faute en quelque sorte. Donc tout était à recommencer, et c'est par le biais du Mishkan qu'on doit réparer la chose, réparer cette chose-là. Donc c'est toujours avec le Gan Eden, c'est-à-dire avec les matériaux qui nous ont été donnés au tout début du monde, qu'il faut réparer. Bien sûr, ça dépend aussi des hommes, mais il faut prendre des matériaux adéquats. Parce qu'il faut il fallait ces bois, et d'une certaine manière, les bois sont abîmés par l'idolâtrie, puisque il y a une adoration des arbres, les arbres deviennent des bois. Les arbres sacrés, et du coup, on ne peut plus les utiliser pour servir Hachem. On ne peut pas construire la résidence d'Hachem, comme vous comprenez bien, avec des bois qui sont du bois qui est issu des arbres sacrés, bien sûr. Bien, alors ceci étant, alors Hachem dit voilà, je vais vous montrer, vous ferez exactement ce que je vais vous montrer. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses difficiles, même pour Moshe Rabbeinu, des choses dont il n'arrivait pas du tout à s'imaginer comment on pouvait les faire. Et donc, je vais vous les montrer. Je me dis, voilà, vous ferez exactement comme je vous l'ai montré. Et alors là aussi, c'est marqué Vrenta Asu, vous ferez ainsi. Alors, on trouve ici de nouveau quelque chose dont on a déjà bien parlé. Il faut bien comprendre que l'idée d'une résidence pour Hachem, etc., c'est quelque chose de dangereux, si vous voulez. Parce qu'on est à la limite de l'idolâtrie. Dès le moment où on fait des représentations de quelque chose, même très symbolique, etc., alors on joue un peu avec le feu. C'est la raison pour laquelle il va y avoir dans la construction du Mishkan une exception fondamentale. On a vu quand on a lu la Parshat de Shalach, on a lu le passage de la mer, et dans le cantique de la mer, il y a ce fameux pasuk Zekeli ve'anveu, à partir duquel on déduit la mitzvah de embellir les mitzvot. Nous avons une mitzvah d'embellir les mitzvot. C'est-à-dire, vous devez allumer les nérot de Shabbat, vous allez essayer d'embellir. Comment on embellit? Alors, ou bien on prend une très belle, une huile qui brûle bien avec des belles mèches, éventuellement des beaux bougeoirs, éventuellement toutes sortes de choses autour qui sont là pour embellir. Et c'est vrai dans toutes les mitzvot. Sauf dans la construction du Mishkan. Dans la construction du Mishkan, imaginez que vous avez le plus beau diamant du monde. Et vous savez que dans le Mishkan, il va y avoir ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire le Aaron, qui est une boîte dont on va parler. C'est une boîte avec un couvercle. Sur ce couvercle et dans la matière du couvercle, il y a les deux chérubins. Imaginez, vous avez le plus beau diamant du monde. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire avec ça? je vais embellir l'arche de l'Alliance. Je vais enchâsser ce diamant dans le couvercle de l'arche de l'Alliance. Vous avez acheté le plus beau diamant du monde, etc. Vous faites une fête de faire ça. Si vous faites ça, c'est Avodah Zarah. C'est l'idolâtrie. On n'a aucune marge en ce qui concerne la construction du Mishkan. Dans les korbanot, on peut embellir. Quand la Torah te prescrit d'apporter un petit animal, tu peux faire mieux et apporter un gros animal. Il y aura plus de viande, plus de graisse, plus de... etc. Et tu peux apporter des sacrifices qui ne sont pas prescrits. Donc, pour embellir la chose, pour... voilà. La table, en quelque sorte, le misbéach, soit plein, etc. C'est l'abondance. Etc. Ça, tu peux le faire. Ça, c'est dans le fonctionnement. Mais dans la construction, tu ne peux rien faire. Absolument rien. Pourquoi ? Parce que tu feras ce que je te montrerai. Cher Annie Marais, ce que je te montre, tu fais exactement ça. Plus que ça, c'est interdit. Plus et moins, évidemment, moins aussi. Donc, quelles que soient les bonnes intentions qu'on a, évidemment. Et puis, il va y avoir la prescription. Hachem dit, « Vasu li migdash ». Ils me feront un sanctuaire. Alors, des fois, c'est appelé migdash, et des fois, c'est appelé mishkan. Mishkan, c'est la notion de résidence. Shochen, ça veut dire résider. Mishkan, c'est la résidence divine. Et le Migdash, c'est un sanctuaire. Et c'est le même objet, c'est la même construction. Il s'appelle résidence d'Hachem parce que, du coup, Hachem veut okay, il annonce que sa présence dans le sera. Il y aura présence divine dans le Mishkan. Il sera là. Il sera là, ça veut dire, quelque part, il remplira tout cet espace. Il y aura même des moments, une difficulté pour Moshe Rabbeinu pour rentrer, parce que la présence divine occupait tout l'espace, donc il ne pouvait pas entrer. Là, il aura fallu qu'il se restreigne, en quelque sorte, qu'Hachem se... lui fasse de la place pour qu'il puisse, que Moshe puisse entrer. Migdash, c'est un sanctuaire, ça veut dire c'est un lieu qui a une certaine sainteté. On va y faire des choses saintes. Alors, il y a ensuite ce verset-là, c'est le fameux verset un peu ambigu, parce que le verset dit « Vasu li migdash veshachanti betocham ». Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Alors, que chol asher ani mareh otra, tout de suite, exactement comme ce que je vais te montrer. Le Sforno explique la chose de la manière suivante. Il dit, de même que ma présence était là, en quelque sorte. J'étais présent sur le Sinaï. De la même manière, je serai présent dans le Mishkan, et plus précisément, je parlerai avec Moshe, et la voix qu'il entendra, elle semblera venir d'entre les deux chérubins. Je vous ai dit, il y a sur le toit, sur le couvercle, pardon, du Aaron, dans la matière, c'est le même lingot quelque part, on a fabriqué ces fameux deux chérubins, Donc, entre les deux chérubins, la voile, elle sera comme émise d'entre les deux chérubins. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu la recevra. Et donc, ce qui est dit là, c'est Hachem dit Veshachanti betocham. Je résiderai parmi eux. Mais c'est presque un pléonasme. Vous me ferez un sanctuaire. Évidemment, on ne va pas faire le sanctuaire ailleurs qu'au milieu du clan Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, je résiderai parmi eux? Alors, la dracha, elle est très connue. C'est-à-dire, vous allez me faire un sanctuaire, et en même temps, Hachem dit, je résiderai parmi eux, betocham, ça veut dire belef kol echad ve'echad. Je résiderai dans le cœur de chacun. Bon, ça, c'est très compliqué. Si Hachem réside dans le cœur de chacun, quel besoin d'un sanctuaire physique, là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fabriquer un Mishkan? Puisque ce qu'Hachem veut, c'est résider dans le cœur de chacun. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de résider dans le cœur de chacun? Le cœur, au Chazal, le cœur, c'est le centre. Et c'est l'endroit où se prennent les décisions. Et par conséquent, si Hachem dit « je serai dans le cœur de chacun », ça veut dire « je participe, je serai partie prenante dans les décisions de chacun ». Dire que Hachem sera partie prenante dans nos décisions, ça veut dire concrètement que quand je prends une décision, je dois la prendre en sachant que je prends cette décision devant Hachem. Et on sait très bien qu'on n'agit pas de la même manière quand on est devant Hachem, ou même quand on est devant quelqu'un d'important, ou quand on est seul chez soi. Et donc là, je dois prendre la décision en étant conscient que je la prends devant quelqu'un qui connaît toutes les raisons profondes des décisions que je prends. C'est-à-dire, il connaît évidemment aussi les pensées qui les vraies pensées. Il connaît aussi mon subconscient, etc., quand je prends une décision. Donc évidemment, je peux pas faire grand-chose sur mon subconscient, mais sur mon conscient, je peux faire. C'est-à-dire de penser que oui, je prends cette décision-là. Est-ce que je, si vous voulez concrètement, ça voudrait dire la chose suivante. Quand vous prenez une décision, vous devez essayer de vous représenter, est-ce que je prendrais cette, j'assumerais cette décision devant la personne dont l'opinion m'est la plus chère? Je prends une décision et je prends cette décision devant, est-ce que je l'assume devant mes parents, devant mes enfants, devant mes amis, devant mes maîtres, etc. C'est ça. C'est les approximations de prendre la décision devant Hachem. On verra très bien que c'est ça qu'Hachem voudrait. Enfin, voudrait. C'est ça qu'Hachem veut. Alors, si c'est comme ça, alors on peut presque dire que le Mishkan lui-même, il est presque un espèce de rappel extérieur. Des fois que tu aurais oublié, tendance à oublier que ce qu'Hachem veut, c'est qu'il veut résider dans ton cœur. Alors, voilà, il y a un Mishkan, il y a un endroit que tu vois clairement ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, on peut très bien faire comme si on ne le voyait pas, ou, etc. Mais là, on va sortir et au centre, il y a le Mishkan. Alors maintenant, le Mishkan, c'est beaucoup de choses. Dans le Mishkan, il y a On va par exemple nous parler, quand on va décrire le Mishkan, l'enveloppe elle-même, on va parler d'une séparation, d'une espèce de rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Mishkan, c'est un Mikdash, et dans le Mikdash, il y a un endroit qui est plus saint encore que la totalité de l'édifice, qui s'appelle en français le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que le Aaron HaKodesh. Et puis, ensuite, il y a le rideau, séparation. Et juste de l'autre côté du rideau, au nord et au sud, au nord, il y a ce qu'on appelle le Shulchan, la table. Au sud, il y a la menorah. Bon, la menorah, c'est clair, tout le monde ce que c'est. C'est une menorah à 7 branches, une centrale et 3 de chaque côté. Et puis le Shulchan, c'est une table sur laquelle il va y avoir en permanence des pains, 12 pains, dont on va parler plus tard. Donc là, le Shulchan représente, si vous voulez, la Parnassa, le matériel, et la menorah, l'intellectuel et le spirituel. C'est-à-dire, certains disent que, justement, la menorah est une branche verticale, enfin une centrale, pardon, et, comme je vous ai dit, de part et d'autre, trois branches. Alors, on dit que c'est là aussi, ces branches-là, elles ne sont pas verticales. On veut que la flamme soit dirigé vers le centre. Parce que le centre, c'est la Torah, et le reste, c'est ou bien les sciences, ou bien les midot, on va voir ça dans le détail après. Et donc, ça doit converger, tout ça, c'est au service de la Torah. C'est-à-dire, le travail doit se faire sur les midot, etc., et le centre, c'est la Torah. Bien montré. Ça veut dire, et finalement, ça veut dire que on a la présence divine qui est attestée par le Mishkan. Dans le Mishkan, la partie fondamentale, c'est le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, l'important, c'est le Aaron, qui est le fondamental. Le Aaron, c'est une boîte à l'intérieur de laquelle il va y avoir les Luchot, les tables de la loi. Alors, après avoir dit, justement, vous me construirez ce Mishkan, alors la première chose qui est dite dans le verset Yud, Vasu Aaron Atseshitim. Ils feront un Aaron, une boîte, Atseshitim de nouveau, en bois de chitim, en bois d'acacia. Les dimensions, c'est 2,5 coudées de longueur et une coudée et demie de largeur et 1,5 coudées de hauteur. Donc, en gros, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait deux amotes et demi. Une amas, c'est à peu près 50 centimètres. Donc, c'est 1,50 m. Non, même 1,25 m plutôt. Un mètre, 2 et 25. 1,25 m et 75 centimètres de largeur et de hauteur. Donc, c'est pas bien grand. Alors, c'est décrit comme une boîte qui sera recouverte de l'intérieur et de l'extérieur par de l'or. C'est en bois d'acacia, mais recouvert. En d'autres termes, si vous voulez, ça se présente comme trois boîtes. Une boîte en or, une boîte en bois un peu plus grande que la boîte en or, et une nouvelle boîte en or plus grande que la boîte en bois. Donc, elles sont emboîtées les unes dans les autres. Alors, bien entendu, l'utilisation des métaux, ce métal-là plutôt que celui-là, et du métal, et le sur un cœur qui est en bois, etc., tout ça, c'est significatif. Comme on ne va pas entrer là-dedans, d'abord parce que je ne sais pas interpréter dans tout ça. Et, mais bon, il y a des choses qui sont dites dans les Mefarshim. Vous pouvez bien imaginer que c'est pas au bonheur, au petit bonheur que ça a été décidé. C'est des ordres divins, donc c'est ce qui se joue là des choses fondamentales, parce que ce qu'on va faire dans ce Mishkan, le travail, la avoda qui va se faire dans ce Mishkan, va gouverner le monde. C'est une espèce de, il faut voir le Mishkan comme étant une espèce de pupitre de commande du monde. Comme quand vous avez une usine et puis vous avez un ordinateur qui commande tout ce qui se passe dans l'usine. Vous avez des ponts roulants, des tonnes qui sont déplacées avec en appuyant sur un bouton. Donc il y a des gestes qui sont évidemment des petits gestes parce qu'ils sont à l'échelle du Mishkan. Le Mishkan, c'est très petit. C'est vraiment pas grand-chose du point de vue. C'est pas un édifice impressionnant du tout. C'est petit, c'est transportable, c'est en kit, etc. Mais c'est un lieu à partir duquel beaucoup de choses sont gouvernées, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première chose, la première mitzvah qu'on nous donne concrètement, après nous avoir dit, vous allez me faire un Mishkan, mais on n'a encore pas dit du tout comment on va le construire. La première chose, on te parle de l'arche. On dit l'arche de l'Alliance, mais c'est la boîte en question, le Aaron. En hébreu moderne, un Aaron, c'est une armoire. Alors, c'est vraiment une armoirette, parce qu'elle a 1,25 m de longueur et 75, 75. Alors, et un peu, tout le monde connaît la discussion entre Moshe Rabbeinu et Betsalel. Quand Moshe Rabbeinu a donné l'ordre à Betsalel, parce que il va y avoir quelqu'un qui va être nommé responsable de la construction. Et le responsable en question, comme vous savez bien, c'est le fameux Betsalel. Il a un adjoint, il y a un adjoint, mais bon, c'est Betsalel le grand organisateur. C'est pas lui qui fait tout. Tout le monde va participer, mais c'est lui le grand organisateur. Et Moshe Rabbeinu a dit à Betsalel, justement, il lui a donné les ordres ici. Tu feras le Aaron, le Shulchan, etc. Et puis après, ensuite, tu vas construire la tente. Alors Betsalel lui a dit, mais ça n'a pas de sens de faire ça dans cet ordre-là. On va faire le Aaron et on va le mettre où en attendant? Il faut commencer par faire la tente. Une fois qu'on aura la tente, on pourra faire le contenu. Parce qu'on pourra protéger le contenu en le mettant à l'intérieur de la tente. Alors, Moshe va dire à Betsalel, ah bon, bien sûr, c'est comme ça que je l'avais entendu, mais bon, ou j'ai oublié, ou j'ai changé, etc., peu importe. Il va y avoir un problème. Pourquoi Moshe dit les choses dans cet ordre, alors que, évidemment, il ne faut pas les faire dans l'ordre que Moshe a dit, mais là, on voit très bien que du point de vue des ordres, on nous donne d'abord les ordres concernant le Aaron, le Shulchan et la Menorah. Donc les trois grands meubles du Mishkan. Avant de nous dire comment on fait le Mishkan. Ensuite, on va nous expliquer comment on fait le Mishkan avec la structure. Et puis ensuite, les couvertures qui sont toutes sortes de couvertures, toutes sortes de matières, de laine, de peau de bête, etc. qui vont recouvrir et protéger le Mishkan. Protéger, si on peut imaginer. Bien sûr que le Mishkan n'avait pas besoin de protection au sens habituel du terme, c'est la résidence d'Hachem. Mais néanmoins, il faut lui donner une forme comme si on devait le protéger. Protéger ce qui est à l'intérieur, bien sûr. Alors, si vous lisez justement ce verset Yud là, qui donne les dimensions, qui ensuite dit ce sera recouvert d'or de l'intérieur et de l'extérieur, et puis vous lui ferez au-dessus, vous ferez une petite couronne en or. Et ensuite, on fera quatre anneaux en or qu'on va fixer sur les enfin deux de chaque côté du de la dans la longueur et dans lesquels on va introduire des barres qui sont des barres de bois recouvertes d'or. Ces barres, a priori, ce sont les mêmes barres qu'on va retrouver, on va faire la même chose sur le shulchan, sur la table. La table qu'on va construire, on va aussi la munir de deux anneaux de chaque côté, introduire des barres, etc. Tout ça, c'est pour le transport. C'est-à-dire que pour porter le Shulchan ou pour porter le Aaron, les hommes vont porter, vont faire reposer sur leurs épaules les barres. Alors, il y a une grande différence entre les barres de la table et les barres du Aaron, c'est que les barres de la table, elles sont fonctionnelles. C'est-à-dire, on met les barres quand on veut se déplacer. Mais en temps normal, la table, elle est là, les barres, elles sont rangées ailleurs. Par contre, les barres de la Torah, hein, les barres du Aaron, pardon, qui contient la Torah, qui contient les Lourdes, donc les barres du Aaron à Kodesh, elles, on va les laisser sur place, on va les laisser accroché au Aaron en permanence. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'on veut signifier avec cette différence? C'est que les barres du Shulchan sont des barres qui sont là pour le transport, parce que quand on doit transporter, ben, il faut bien les barres. Mais les barres du Aaron, pourquoi est-ce qu'on ne les enlève pas pendant qu'on campe? Ça veut dire que on est sans arrêt prêt pour partir immédiatement. Parce que la Torah, qui est représentée par le Aaron, la Torah, elle est toujours prête. Où que nous allions, où que nous partions, la Torah, elle vient avec. La Torah, elle est toujours avec nous. Donc, elle a jamais. Il n'y a pas deux états de la Torah. La Torah est auprès de nous de la même manière, d'une certaine façon, quand on transporte et quand on se transporte et quand on campe. Pardon?
Il faut pas s'approcher, on peut pas toucher, parce que c'est ça. Donc
Non,
on
non,
utilise.
c'est autre chose. L'histoire de bien sûr, on ne pouvait pas vraiment. D'abord, dans le Kodesh HaKodashim, personne ne pouvait entrer, sauf Aaron et Yom Kippour, de toute façon. Mais ensuite, ce à quoi vous faites allusion, c'est que quand on va transporter tout ça, on va démonter les choses. On ne va pas le transporter tel quel. Les choses vont être démontées au maximum. Et c'est à ce moment-là que on n'aura pas le droit de venir voir. Parce que si vous voulez, il y a des choses qui ne supportent pas d'être décomposées.
Ça désagrège. Oui.
Vous avez un être humain, si vous réduisez l'être humain à ce qu'il est matériellement, c'est quoi? C'est pas mal d'eau, un peu de graisse, un peu de poils, etc. C'est pas grand-chose. Alors c'est ni beau, ni intelligent, ni rien du tout. Donc, ça ne supporte pas cette décomposition. Donc, personne n'était là pour la décomposition, pour le démontage. Alors, comment est-ce qu'on faisait? C'est les Kohanim qui, eux, travaillent vraiment avec les mains dans, on dirait dans le cambouis, quoi, si on peut parler comme ça. Eux, ils venaient, ils enveloppaient les choses qui devaient être transportées. Et puis ensuite, les porteurs, qui étaient de la tribu de Lévi, les porteurs venaient et ils portaient quelque chose d'enveloppé. Ils savaient ce qu'ils portaient, mais ils n'avaient jamais vu. Ils ne voyaient pas ça à l'intérieur. On ne pouvait pas voir. Alors, on ne peut pas non plus, par exemple, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion, un jour, les Philistins, bien plus tard, ils ont, quand on était déjà sur la terre d'Israël, il y avait sans arrêt des razzias des Philistins. Les Philistins venaient, ils faisaient une razzia, ils emportaient la nourriture des Bnei Israël. Et du coup, les Bnei Israël, ils crevaient de faim et des fois, ils étaient pratiquement presque réduits en esclavage de nouveau. Et il y avait des révoltes. Et puis, il fallait aller faire la guerre aux Philistins pour récupérer tout ce qu'ils avaient pris déjà. Et un jour, ils ont fait prisonnière l'arche. Les Israël ont eu une défaite très importante. Et l'arche. Alors, c'est pas sûr que c'était cette arche-là parce que on a fabriqué une arche portative qui devait accompagner les guerres. Et donc, c'est peut-être celle-là qu'ils ont. Enfin, de toute manière, elle avait la Kdoucha. Et à un moment donné, quand elle était chez les Philistins, ça leur faisait des ennuis. Bon, il y avait des malheurs, etc. Donc, ils se sont dit, on va renvoyer cette arche. Et donc, ils l'ont mise sur une charrette et on l'a renvoyée. Et puis, il y avait des chaos de la route et il y a quelqu'un qui a eu peur que le Aaron ne tombe de la charrette et qui s'est précipité pour retenir le Aaron. Et il en est mort parce que il n'a pas compris que c'est pas quelque chose d'humain, ça appartient à un autre monde. C'est pas soumis au chaos de la route. Ça se tient tout seul. Ça se porte tout seul. Je vous ai dit, il y a des fameuses barres qui servent à porter le Aaron. Donc il y a des gens qui sont préposés à porter le Aaron, mais en vérité, Chazal disent que Aaron noset nosav. Bien entendu, le Aaron n'avait pas besoin d'être porté, c'est au contraire lui qui portait ses porteurs. Donc il fallait des porteurs pour eux. Voilà, c'est dans le monde humain, mais il ne faut pas oublier que c'est le Aaron à Kodesh, que cet Aaron-là, c'est quasiment un autre monde. Le Aaron, il n'a pas besoin d'être porté, mais comme il est dans ce monde-là, dans ce monde-ci, alors on fait comme si, mais en réalité, il portait ses porteurs. Et donc, malheureusement, il y a eu mort d'homme à ce moment-là. Celui qui s'est précipité, il en est mort. Je ne sais pas si c'était à ça que vous faisiez allusion.
Mais Rav, si l'arche est tombée, il a bien fallu la ramasser.
Elle n'est pas tombée.
Ah, pardon.
Il y avait un chaos, il lui a cru qu'elle allait tomber, il a voulu la...
D'accord.
Donc, voilà, donc, ça c'est cette différence, les barres, elles sont fixes, on ne les enlève jamais. Et alors, dans le pasouk, il est dit, dans le psoukim, c'est marqué, dans le verset 21, Venatata est à Kaporet, le Kaporet, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance, donc de la boîte en question, le couvercle, donc, qui est un couvercle qui porte, dans lequel il y a les Kruvim, les chérubins, tu mettras à l'Aaron Milmala, au-dessus de Aaron, et Vel Haaron, et dans l'arche, dans la petite armoire là, Titen et ha edut, tu mettras le témoignage, Asher eten elecha, que je te donnerai. C'est quoi ce témoignage que je te donnerai? A edut, qu'est-ce qu'on dans l'arche on met un témoignage? Les luchot s'appellent luchot ha edut. les tables du témoignage, parce qu'en plus d'être les tables sur lesquelles Hachem a gravé, etc., elles sont d'une certaine manière un témoignage sur ce qui s'est passé au Sinaï. Et donc, là, on a l'impression que, évidemment, c'est les louchot que je te donnerai. Donc, on a l'impression que ce texte-là a précédé le matin de Torah. C'est marqué les louchot que je te donnerai. Mais en vérité, tout ça, ça a déjà été dit. Comme dit Rashi un peu plus haut, on est au Passouk 21 ici, c'est déjà au Passouk Tetzain, que ça a déjà été dit. C'est déjà dit avant dans le verset Tetzain, donc le 16. Benatata el Aaron et Aïdut Asher et Enelecha. De nouveau, ça s'appelle les Luchot. Au lieu de dire les Luchot, le texte dit et Aïdut, le témoignage. Cette idée que les louchot sont le témoignage de ce qui s'est passé au Sinaï, le Ramban l'étend complètement et lui, il présente le Mikdash et le Mishkan. Il dit que d'une certaine manière, c'est un espèce de Sinaï portatif. Hachem s'est dévoilé au Sinaï. Comme on a vu, Hachem a dit, de même que ma présence était là au Sinaï, elle sera aussi dans le Aaron. Donc cette comparaison, dit le Ramban, veut dire que le Mishkan, c'est le Sinaï qu'on a en permanence avec nous. Donc de ce point de vue-là, le Sinaï n'est pas un lieu particulier. D'ailleurs, le Sinaï, à partir du moment où Hachem n'a plus parlé, ne parlait plus, il n'avait aucune sainteté. C'est pas devenu une montagne sainte. Elle était sainte au moment où Hachem parlait, alors on ne pouvait pas entrer, on ne pouvait pas monter sur la montagne, etc., parce qu'Hachem parlait. Et dès le moment où Hachem a cessé de parler, c'est devenu une montagne où on pouvait faire brouter les troupeaux comme il voulait. C'est pas devenu un endroit sacré. Quand Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu dans l'histoire du buisson ardent, c'était déjà au Sinaï, Hachem lui a dit, voilà, c'est là où tu es, c'est Admat Kodesh. La fameuse terre sainte, ça n'existe pas dans la Torah, sauf là. Sauf, mais pourquoi c'était saint? Parce qu'Hachem lui parlait. Avant qu'Hachem lui parle, les troupeaux pouvaient brouter là-bas, et après qu'il a terminé de lui parler, ils pouvaient de nouveau brouter là-bas. Il n'y a pas de sainteté de la terre. La sainteté de la terre, c'est, même en Eretz Israël, il n'y a pas une sainteté de la terre en tant que telle. Kedushat Haaretz, ça veut dire, c'est une terre avec laquelle on doit se conduire d'une certaine manière. C'est avec une terre sur laquelle, quand on cultive, on a des obligations. Il y a des années sabbatiques, il y a donc la Shemitah. Il y a le Yovel, le cas échéant, il y a les prélèvements de Troumot et Masrot qu'on doit prendre, etc. Et puis, il y a une gravité particulière et un impact particulier des mitzvot qui sont faites à cet endroit-là, et un impact particulier, malheureusement aussi, sur les Averot qui sont faites à cet endroit-là. Mais c'est donc, tout ça, c'est par rapport à l'homme. Par rapport aux hommes. Il y a même un Zohar dont je vous ai déjà parlé, je pense, qui dit que quand c'est sur la terre d'Israël, on ne plante pas des arbres. Alors après, il y a un problème de savoir qu'est-ce que sont les arbres. Elle appartient à Ishmaël, elle n'appartient pas à Israël, dit le Zohar. Alors, est-ce que les arbres qu'on doit planter, est-ce que c'est les grands hommes? Est-ce que souvent il y a la comparaison entre l'homme et l'arbre? Ou bien c'est vraiment les arbres? Est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est ce qu'il y a de particulier avec le fait d'y planter des arbres? Quand on plante des arbres, alors ça appartient à Israël. Quels que soient les arbres qu'on plante, je veux dire, que ce soit des vrais arbres, je ne sais pas, le pshat dans ce Zohar. En tout cas, il y a une possibilité que cette terre-là, quand certaines conditions ne sont pas remplies, elle n'appartient même pas à Israël. Ishmaël a le droit de revendiquer cette terre. C'est parce que c'est lié à la Mila, et comme lui fait aussi une Mila imparfaite, mais une Mila quand même. Donc il a aussi des droits, dit Akadosh Baruch Hu, sur cette terre. Donc ici, on nous dit, voilà, pour le Ramban, tout le Mishkan, c'est en réalité un espèce de Sinaï permanent qu'on transporte avec nous. Donc, vraisemblablement, d'après Ramban, le Mishkan, il a une propriété que n'ont pas les Batei Mikdash. Les Batei Mikdash qu'on va construire après, d'accord, ils ont été détruits. Le Mishkan n'a jamais été détruit. Le Mishkan, il a été remplacé par quelque chose qui va aboutir au Beit HaMikdash en dur, si vous voulez, et il s'est enfoncé dans la terre, il a disparu, comme le Aron HaKodesh, etc. L'Aron HaKodesh, lui, il a disparu au moment de la destruction du premier Beit HaMikdash. Le Aron qui était dans le premier Beit HaMikdash, il a disparu. Au deuxième Beit HaMikdash, il n'y avait pas de Aron. Il y avait la pierre sur laquelle on aurait dû poser le Aaron, mais il n'y avait pas d'Aaron. Voilà, on va s'arrêter là.